Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Ainsi se termine ce premier épisode, la suite dans le deuxième épisode. Ce premier épisode, nous allons le débriefer maintenant avec un acteur clé de ce dossier, l'avocate Corinne Herrmann. J'ai dit tout à l'heure, Corinne, que vous aviez eu un rôle clé dans ce dossier. Il faut juste nous expliquer pour qu'on comprenne. À l'époque, vous n'êtes pas avocate, mais vous êtes juriste dans le cabinet de Pierre González de Gaspard. Et c'est vous qui apportez ce dossier au cabinet. Dans quelles circonstances ?
Alors oui, j'apporte ce dossier au cabinet. Je ne suis que juriste et je suis informée par ma sœur de l'émission de Perdu de vue qui recherchait un avocat. Donc je vais me positionner sur la liste de l'émission. Je vais positionner le cabinet sur la liste de l'émission, ce que j'aurais pas dû faire, hein, qui m'a valu quelques remontrances. Mais en tous les cas, on était sur cette liste et on se proposait comme avocat à l'époque, oui.
Et vous n'êtes pas avocate, hein, vous travaillez en deuxième ligne derrière González de Gaspard.
Oui, tout à fait, je suis juriste et en fait, classiquement, dans ce cabinet, il y avait Pierre González de Gaspard qui plaidait, qui faisait le travail de l'avocat et on était plusieurs juristes au cabinet à se partager les dossiers. Et comme j'ai fait rentrer le dossier, naturellement, je vais suivre ce dossier.
Et donc vous, pendant toutes ces années, c'est vous qui, main dans la main avec Pierre Monnoir, vous battez pour sortir cette affaire de l'oubli. Ça veut dire que vous le voyez quoi, Monnoir, tous les jours ?
Ah, je crois qu'on s'appelait... pratiquement toutes les heures à l'époque et pendant des années, on s'est appelé. Il n'y avait pas une information qui n'était pas échangée entre lui et moi, et on construisait la stratégie de ce dossier tous les deux, au jour le jour, à l'heure après l'heure, week-end, soirée comprise, parce que c'était un dossier tentaculaire, énorme, où il y avait tout le temps des informations contradictoires et où il fallait combattre cette justice. Ça a été un combat vraiment hors norme qui nous pèse encore aujourd'hui, qui a été vraiment très lourd.
Mais Monnoir, dans ce dossier, on peut dire qu'il en a fait une affaire personnelle, alors qu'en vérité, il n'est pas concerné directement par le dossier. Est-ce que vous aussi, d'une certaine manière, vous diriez aujourd'hui que vous en avez fait une affaire personnelle ?
Oui, c'était une affaire personnelle pour nous deux. Je pense pour nos familles aussi qui ont été sacrifiées à cette affaire à l'époque, parce que c'était tellement injuste, il y avait tellement de fausses informations, et il y avait un tel refus de la justice, des enquêteurs, de tout le système qu'on en faisait une affaire personnelle, parce qu'il fallait que ça cède, parce qu'il fallait que ces jeunes filles soient recherchées et rendues à leur famille d'une façon ou d'une autre, en tout cas que la vérité fasse jour, et nous avions le sentiment de connaître la vérité. Nous avions aussi un sentiment d'urgence, parce que nous pensions que c'était un tueur en série, que nous en avions les preuves et que la justice refusait de l'interpeller, le laisser dehors, donc il était dangereux. Moi, je me vois encore dans le bureau du juge dire qu'il est toujours agissant, il était toujours dangereux quand on a déposé la plainte et ça s'est avéré exact par la suite. Un tueur en série s'arrête rarement et c'était pour nous une urgence, donc ça devenait une affaire personnelle et ça devenait l'essentiel de notre vie pour intercepter sa route.
Oui, ça envahit votre vie, un peu,
oui.
Beaucoup.
Oui, totalement.
C'est rare ça, chez un avocat. Enfin, vous n'êtes pas avocate à l'époque, mais c'est quand
non,
même
mais
rare.
Je deviens à cause de lui. Je deviens à cause de lui, parce qu'il y a d'autres combats par la suite. Et que je dirais qu'aujourd'hui, on en est toujours au même point avec la justice sur d'autres affaires. Oui, ça devient le combat d'une vie, oui. Et Pierre Monnoir, qui est aujourd'hui le président d'une association de victimes, est toujours sur le pont aussi. Voilà, ça a déterminé les 30 dernières années de notre vie.
Corinne Herrmann, si je remets les choses dans l'ordre, c'est bien, donc, vous en avez dit un mot tout à l'heure, l'émission Perdue de vue qui fait déclic. Et je souligne ce point parce que à cette époque, on disait beaucoup de mal de cette émission, mais pour le coup, elle a été déterminante.
Absolument, elle a été déterminante. Il y a eu 4 épisodes, effectivement, c'est le déclic. Pierre Monnoir avait tenté d'alerter d'autres journalistes et d'autres émissions auparavant. Ça n'avait pas eu l'effet qu'a eu cette émission qui était nationale et qui avait une aura nationale importante, même si elle était décriée par certains. Elle a été importante dans ce dossier, elle a été dans d'autres, effectivement.
Et votre chance aussi, c'est de tomber sur Stéphane Munca. Vous auriez pu tomber sur un naze, il y a des nazes parmi toutes les rédactions. Vous auriez pu tomber sur un mauvais journaliste. Vous tombez sur un gars qui ne va pas lâcher.
Eh bien, à partir du moment où Stéphane Munca avait réuni un certain nombre d'éléments qui permettaient l'émission, puisque pour qu'il y ait une émission, il fallait avoir quelques photos, il fallait quand même vérifier la base de ce que disait Pierre Monnoir, l'existence de cette affaire. Donc il avait fait des vérifications basiques qui suffisaient pour l'émission. Ensuite, ça... Je dirais que dès que la première émission a eu lieu, ça s'est suivi de façon naturelle, puisque très exactement, il y a des familles qui se sont manifestées, des frères et sœurs qui se sont manifestés, qui ont appris par l'émission que leur sœur avait disparu. Enfin, pour eux, leur sœur avait refait leur vie et elle ne voulait pas leur donner de réponse. Et c'est par cette émission que plusieurs familles, plusieurs membres de ces familles apprennent que leur sœur a disparu.
Et vous aussi, c'est par cette émission que vous apprenez qu'il n'y a pas 4, mais 7 disparus.
Alors oui, petit à petit, hein, ça se fait petit à petit, puisque l'émission va commencer sur 4 disparus. Et ce sont des familles qui vont se manifester, dont par exemple la famille Weiss, qui était en nourrice chez Émile Louis, qui va se manifester. Donc petit à petit, on va compléter le tableau, effectivement.
Le rapport du gendarme Jambert, qui avait donc tout compris dès le début des années 80, vous le découvrez quand ?
Alors, je le découvre avec certitude, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on va douter de l'existence de ce rapport et de cette enquête. On le découvre après les aveux d'Émile Louis, tout de suite après les aveux d'Émile Louis, dans les jours qui suivent.
Mais avant ça, non. C'est-à-dire qu'au moment de l'émission perdue de vue, il le connaît, Stéphane Munca, puisque le gendarme lui a lu ce rapport. Mais alors là, physiquement, vous ne l'avez pas.
Non, je ne sais pas, je n'y étais pas. Et je peux vous dire que pendant des années, nous n'avons pas de procès-verbaux de Christian Jambert et nous n'avons pas ce PV de synthèse. Nous l'aurons après, donc nous refaisons tout le travail.
Alors évidemment, il y a quelque chose qui a pu choquer, puisque Jambert arrive à Émile Louis en enquêtant sur la mort de Sylviane Lesage. Il n'a pas été condamné, Émile Louis, dans l'enquête sur la mort de Sylviane Lesage. Vous savez pourquoi ?
Mais je dirais qu'ils n'ont pas réuni les preuves suffisantes pour le mettre en cause à l'époque. Donc ils vont le mettre en cause pour les agressions sexuelles sur des mineurs. Il va être d'ailleurs jugé, incarcéré et condamné pour ces faits. Et il considère à l'époque, en tout cas la justice va considérer, qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour le mettre en cause dans cette affaire. Et il va bénéficier d'un non-lieu dans cette affaire.
Mais on peut penser raisonnablement que c'était lui aussi déjà.
Nous, on pense que c'était lui déjà, on pense que c'est véritablement sa victime, mais surtout, on pense qu'on avait tous les éléments pour le démontrer.
Alors, la mort du gendarme Jambert, suicide, pas suicide, j'ai pas voulu rentrer trop là-dedans, parce qu'il y a un côté complotiste, je trouve, là-dedans, mais certains ont dit qu'il avait été assassiné au regard des deux balles qu'on a retrouvées après son autopsie dans sa tête. Vous en pensez quoi, vous, Corinne ?
C'est ma conviction profonde qu'il a été assassiné. Par qui et pourquoi ? Ça n'est pas forcément lié au disparu de Lyon. Je m'explique, c'est qu'à l'époque, Christian Jambert apparaît devant les médias, mais il avait travaillé sur d'autres affaires qui lui tenaient plus à cœur, où il pouvait peut-être paraître plus dangereux. Le fait qu'il s'exprime devant les médias pouvait le rendre plus dangereux. Moi, je suis sur ce dossier concernant Christian Jambert, qui est toujours d'actualité. J'ai vu toutes les autopsies, j'ai fait les demandes, j'ai été aux exhumations, ça fait quand même 25 ans que je fais du médico-légal, et je vous dis, on n'est pas encore au bout de ce dossier-là, et ma conviction personnelle qui n'engage que moi, c'est véritablement, et ça, Safi le sait, c'est véritablement qu'il a été assassiné.
Vous êtes en train de me dire que l'instruction sur la mort de Jambert se poursuit aujourd'hui ?
Alors, l'instruction a été close, mais comme vous le savez, on peut reprendre une instruction. Ça reste notre actualité et on est loin du monde complotiste qu'on connaît aujourd'hui parce qu'il y a des éléments, je dirais, tangibles, techniques, qui font qu'on va redemander ou qu'on aura à redemander des explications sur cette mort.
J'entends bien que c'est vous qui êtes à la manœuvre dans cette affaire.
Oui, enfin avec le cabinet Seban et avec Didier Seban.
Oui, puisque depuis, bon, Gonzalez de Gaspar est mort, mais avant cela, vous l'avez quitté, vous avez rejoint et vous êtes devenu avocate à ce moment-là. Didier Seban, qui est une star du barreau de Paris. On y reviendra, Corinne Herman, dans le deuxième épisode, mais les magistrats qui n'ont rien fait pour arriver à la vérité, notamment le procureur, le juge du début, ils font ça par incompétence, par mollesse, ou plus trivialement parce qu'il s'agit de handicapé mental et que ça ne mérite pas de mobiliser leur honorable personne.
J'ai envie de dire le tout. J'ai envie de dire que certains étaient incompétents, d'autres n'avaient pas le temps et s'occupaient d'autres choses, ne s'intéressaient pas à ces jeunes filles. Ils savaient qu'elles ne représentaient pas une nuisance pour eux puisque aucune famille n'allait se manifester puisqu'elles étaient à la DAS. Personne n'allait rien leur demander comme compte. On ne leur demanderait pas de compte sur ces affaires-là. Donc, elles sont passées, je dirais, aux affaires qui partaient à la poubelle quasiment. D'autres n'avaient pas envie, tout simplement. Il y a eu de tout, de l'incompétence, du manque d'intérêt pour ces jeunes filles. Et puis, je pense qu'ils se sont aussi fait leurrer par certains directeurs d'instituts qui connaissaient le monde du handicap et qui leur ont dit n'importe quoi, alors qu'on savait que ces jeunes filles n'avaient pas la maturité mentale pour disparaître et assurer leur vie.
Merci Corinne Herman d'avoir débriefé ce premier épisode. Demain, deuxième épisode qui va nous amener heureusement jusqu'à la condamnation d'Émile Louis et que nous débrieferons aussi avec vous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.